Le DAF est clair. Le DAF, c'est clair avec Tora Box et Ravisha Yassayag. C'était Baba Metzia, page 38, DAF la Maîtrette.
Bonjour à tous, c'est DAF est clair, Baba Metzia la Maîtrette. La Michelle nous enseigne que si X a déposé chez Y des fruits, Y voit que les fruits sont en train de s'abîmer, il a pas le droit de les vendre, d'après Tanakama. Rajbag nous dit qu'il les vend avec la permission du Bejin, puisque c'est considéré comme Meshivavela, c'est-à-dire qu'il fait en sorte de protéger les biens d'autrui. Pour quelle raison Bémel après Tanakama ne peut pas vendre, dit la Gemara. Première explication, puisqu'il préfère retrouver ce qui lui appartient plutôt que d'avoir de l'argent et acheter quelque chose qui ne lui appartient pas. Rahman nous dit que on suspecte le propriétaire de les avoir vendus trop massés, et donc tu risques d'amener quelqu'un à fauter en consommant ces fruits. Demande la Gemara, il a marqué que Mafkid peut être Salafero, il n'a pas le droit de les vendre, comme Tanakama. C'est pour cela que celui qui a été Mafkid, il a le droit d'en faire trop massés. D'après Afkana, je comprends. L'interdit, c'est parce qu'il préfère avoir ce qui lui appartient. Le résultat, c'est qu'on lui permet de faire des prélèvements. Mais là, d'après Abraham Maitreya, c'est un cercle vicieux. Non, c'est un cercle vertueux. Mais Emmet, on t'a dit de ne pas vendre. Pourquoi? De peur qu'il a fait des prélèvements. Mais donc, on a interdit de vendre. C'est pour ça que je te permets de faire des prélèvements. On dit à Agmara que cette marque locale de Tanakama et Rajbag, c'est seulement quand la perte est normale et standard, mais dans le cas où Bémet, il y a une grande perte, évidemment que tout le monde est d'accord qu'il peut le vendre. On dit à Agmara, c'est évidemment en désaccord avec la lecture d'Abraham Baritza qui expliquait que d'après Tanakama, le risque est qu'on fasse consommer quelqu'un de la Torah, mais d'après Afkana, est-ce qu'il y a marque locale? On dit à Agmara, Afkana, quand il a dit qu'il préfère avoir quelque chose qui est à lui, c'est seulement quand la perte est normale. Mais quand la perte est incroyable, elle n'est pas normale. Dans ce cas, il est d'accord qu'il vaut mieux vendre et avoir quelque chose plutôt que de ne pas vendre et d'avoir un tout petit peu qui t'appartient. Ah, tu as dit Rotse Adam et comme chez l'auteur, mais qui Tisha Kabin chez le Ravero, c'était une façon de s'exprimer. C'est une exagération dans la Gemara. Il est marqué qu'on a le droit de les rendre Maaser. On a le droit de les rendre Maaser. Peut-être que, d'après Rabbi Yochanan, s'il y a eu une grosse perte, ça a été vendu. Et donc, comment est-ce que toi tu peux faire un prélèvement? Arrête, tu ne sais pas si les fruits sont encore chez lui. L'agma nous dit, c'est peu fréquent, c'est pour ça que j'ai le droit de faire ton prélèvement. Ah, demande l'agma, mais si c'est ainsi, quand tu les vends, peut-être que Bémet, ils sont trop mal au maaser. Et donc, les gens vont être trompés, vont consommer la nourriture qui est trop mal alors qu'ils n'ont pas le droit. L'agma, Bémet, on ne le vend que à des coanimes. Jagmar, si c'est ainsi, pourquoi est-ce que d'après Tanakama expliqué d'après Abraham Maïtsa qu'on ne le vend pas? Parce que c'est peut-être trop mal. T'as qu'à le vendre à des coanimes. Nous explique la Gemara. Rabbi Yochanan lui pense que Yoter Migdei Chesronan, c'est peu fréquent. Quand ça va arriver, ça va arriver après longtemps. C'est pour cela que si le propriétaire a fait tomber un maaser, eh bien, il les a fait avant que c'est arrivé. C'est pour cela que, quand ça va arriver à ce niveau de perte, on va les vendre des koalim. Mais Abraham Maritra qui pense que c'est oui fréquent, que ça peut arriver dans l'immédiat. Et donc, si on lui avait laissé le droit, il aurait fait le prélèvement, il l'aurait vendu immédiatement. Et le propriétaire aurait fait le prélèvement alors que ça a déjà été vendu. C'est pour cela qu'on a interdit de vendre. On dit Agmara, il est marqué dans la Rouita que celui qui dépose chez son ami de la nourriture, du vin, de l'huile ou du miel, il n'a pas le droit de toucher même quand il s'abîme. Rahamim pense qu'on va leur faire une takana, on verra ce que ça veut dire. Et on les vend avec la permission du Bedjin. Il les vend à d'autres et pas pour lui-même. De la même manière, celui qui ramasse de l'argent pour les animes, quand il veut changer la monnaie qu'il a en des grosses pièces, il ne peut pas le faire avec son argent à lui. De la même manière, celui qui ramasse de la nourriture pour les pauvres, il ne peut pas lui-même racheter cette nourriture. En tous les cas, il est marqué que les perrottes qui se sont abîmées, on n'a pas le droit de les vendre. N'est-ce pas qu'on parle même si il y a une grosse perte? Nous, non, il y a une perte standard. Et si Bémet fait une grosse perte, on a le droit de les vendre, comme nous a dit Rabbi Yochanan. Ah, demande la Gemara, quand il y a une vermite ou une vache, une biche, ou alors de l'huile qui s'est abîmée, évidemment, c'est irréversible. Donc c'est une grosse perte. La Gemara, justement, puisque c'est irréversible, il n'y a plus aucun intérêt à vendre. Dans la Gemara, quand tu dis que d'après Chachamim, on va oui vendre, à quoi ça sert? L'huile, on peut l'utiliser pour les tanneurs. Le miel abîmé, on peut l'utiliser pour les blessures de chameau. Rachamim disent qu'on va faire une takana. C'est quoi l'idée de la takana? C'est déjà vendu. Pardon, c'est déjà abîmé. C'est une takana des ustensiles dans laquelle se trouve cette matière. Quelle est la marloquette entre Tanakama et Rabbi Meir dans ce cas-là? D'après Tanakama, c'est seulement quand il y a une grande perte qu'on a dit que tu as le droit de les vendre, mais quand il y a une petite perte, non. Et c'est pour cela que quand il y a un risque d'abîmer les ustensiles, tu ne vois pas. D'après Rachamim, même une petite perte est prise en considération. Rajbag nous a dit qu'il peut les vendre parce qu'il est comme Meshiva Voda. Nous dit que Rabbi Yochanan a enseigné que la Lacha est comme Rajbag. Rabbi nous dit que la Lacha est comme Rachamim. Non, la Gemara, comment est-ce que tu dis que ici Rabbi Yochanan a précisé que la Lacha était comme Rajbag? Rabbi Yochanan l'a dit de manière générale. À chaque fois que Rajbag est cité dans la Mishnah, la Lacha est comme lui, sauf dans trois cas. Est-ce que Rabbi Yochanan aurait dit qu'à chaque fois la Lacha est comme lui ou seulement quand il l'a précisé? Passe la Gemara à notre sujet. de Rajbak, je peux déduire que, puisque tu dois préoccuper des biens d'autrui, si jamais il y a une personne qui a été prise en captivité et ses biens sont laissés à l'abandon, tu dois t'en préoccuper. Et donc, on doit installer quelqu'un dans ce terrain. Alors que d'après Rabbanan, d'après Tanakama, eh bien, on n'a pas le droit de le faire. On a dit qu'il y a le rapport. Peut-être que tout ce que Rajbak a dit, c'est seulement ici, parce que si on ne le fait pas, les fruits vont être complètement abîmés, mais un bien qui est laissé à l'abandon, le kirel ne va pas être abîmé. Et peut-être que Rav Kahana, qui nous a dit qu'il était, et peut-être que Tanakama, qui nous a dit qu'il était interdit de le vendre, c'est seulement pour la raison de Rav Kahana, qu'un homme préfère avoir un cave à lui, ou la raison de Rav Nachman Bar Yitzhak, puisque c'est peut-être Touma, mais dans un terrain, peut-être que, qui est laissé à l'abandon, peut-être que Touma est d'accord qu'on a le droit d'installer. Il nous dit l'agma, donc tu veux dire que c'est deux sujets. Pourtant, Shmuel nous a dit que la lacha est comme Rajbag, et il nous dit aussi que Moridin Karol Irsé Shavui. N'est-ce pas que c'est la même raison, Jagma? Non, c'est deux sujets différents. Et la preuve, c'est que Rav Nachman lui dit que la lacha est comme Chachamim. On ne vend pas ses fruits. Et d'un autre côté, il nous dit que Moridin Karol Irsé Shavui. Donc on voit bien que c'est deux sujets différents, puisque dans les deux cas, il dit la lacha de manière différente. Jagma nous ramène qu'un Shavui qui a été pris en captivité. Rav nous dit qu'on va installer un proche, et Shmuel nous dit qu'on n'installe pas de proche. C'est le contraire, Rav nous dit qu'on n'installe pas de proche, et Shmuel nous dit qu'on installe un proche. On dit, bah, si, Bémet, on a entendu qu'il est mort, tout le monde est d'accord qu'on peut l'installer, pourquoi c'est dans son intérêt de bien protéger ce bien, hein? Toute la marque Logat, c'est quand on n'est pas au courant qu'il est mort. Rav nous dit, El Moridine, de peur que lui, dans l'intérêt et dans la peur qu'il revienne vite, il va essayer de gagner le maximum très rapidement. Shmuel nous dit, Moridine, puisque lui, il a l'intérêt, comme on verra demain, d'être payé comme un Harris, il a tout intérêt à ce que le terrain soit protégé, puisque comme ça, il continuera à gagner. Ah, mais Lazare nous dit, puisqu'il est marqué dans la Torah, vous allez être tués, ça veut dire que vos femmes seront veuves et vos enfants seront des yétomim. Pourquoi est-ce que c'est précisé dans la Torah? Pour nous enseigner que vous ne serez pas là, vos femmes voudront vous marier, on ne les laissera pas, et vos enfants voudront prendre vos biens, on ne les laissera pas. Donc on voit que quand le père n'est pas là, eh bien on ne laisse pas les enfants s'installer sur le bien. Tu diras, bah oui, peut-être qu'on ne les laisse pas les vendre, mais les travailler, peut-être qu'on a le droit. Et moi, nous raconte qu'il y avait une histoire où un père de famille n'était pas là et qu'on voulait mettre les enfants. Et Rav Chechet a dit, le seul état qu'on pouvait pas les faire descendre. Il dit l'agma, mais lui a dit Rav Amram, mais peut-être que c'est les rêves de l'imkor. Il a dit, ah toi, tu viens de Pumbedita, qui aurait l'habitude de faire entrer un éléphant dans un trou d'aiguille. Il est marqué dans la Braïta qu'on les fait pas descendre. On les fait pas descendre. La preuve, c'est qu'il est marqué les mamans et les enfants de la manière que les mamans ne peuvent pas se marier du tout. De la même manière, les enfants ne peuvent pas s'installer dans les biens de leur père. C'est du tout. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas même faire que de la gestion. L'agma nous dit que cette marloquette, en vérité, c'est une marloquette et Tanaïm. Il est marqué que celui qui veut descendre, celui qui descend dans un terrain qui appartient à un chavouï, El Motsi Notomiado, et pas seulement ça, s'il entend qu'il y a un retour de cette personne, tout ce qu'il aura consommé rapidement, tant mieux pour lui. Ça, c'est de quoi on parle seulement quand on a entendu qu'il est mort. Si on a entendu qu'il n'est pas mort, ça s'appelle Nirsé Netushim, des biens abandonnés, eh bien, dans ce cas-là, on l'empêche de rester sur ce terrain. À ce sujet, Rajbag ne nous dit pas du tout. Les Netushim, c'est comme les Chouim, c'est-à-dire que là aussi, on va le laisser. Et si jamais il descend dans le bien, Retushim, ça on ne le laisse pas. Qu'est-ce qui s'appelle Retushim? Une personne qui est partie de son plein gré, et donc il n'a laissé personne derrière lui, c'est lui qui a décidé de laisser le terrain à l'abandon, donc on n'a pas le droit d'installer qui que ce soit. Demande à Bémet, pourquoi il y en a qui s'appellent Netushim et d'autres qui s'appellent Retushim, Marie deux sont à l'abandon? Jagma, tout dépend du pasouk. Dans le pasouk a marqué VH8, je peux être là, Untashta. Donc quand tu as été forcé par la Shemitah de quitter son terrain, ça s'appelle Natush, abandonné. Mais Retushim, c'est un pasouk qui est marqué M, Albanim Rutasha. On a abandonné une femme et ses enfants, c'était de façon voulue. Donc le terme d'abandon voulu, c'est Retushim. Voilà, c'est marqué, ce qu'on a vu. Dépôt de fruits chez un autre et les fruits sont en train de s'abîmer. Marloquette, est-ce qu'on a le droit de le vendre ou pas? Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit à deux explications? Parce qu'un homme préfère avoir un cavalu plutôt que neuf à son ami, ou alors parce que peut-être qu'il les a rendus macerbes. Rabbi Yochanan pense que s'il y a une porte qui est phénoménale, là tout le monde est d'accord qu'on a le droit de le vendre. Quand de toutes les façons c'est abîmé et que ça sert à rien de vendre, tout le monde est d'accord que, Chachamim, Rabbi Meir pense qu'on n'a pas à les vendre. Pourquoi est-ce que dans ce cas où c'est abîmé, on les vend pour protéger l'ustensile, donc Marloquette, est-ce qu'on les recherche à une petite perte ou pas? Marloquette, est-ce que la lacha est comme Tanakama ou comme Rajbag? Marloquette, est-ce que Rabbi Yochanan a dit de manière générale la lacha comme Rajbag ou seulement quand il a précisé? Marloquette, est-ce qu'on est Yored les Nirsé Shavui ou pas? Quand on a entendu qu'il est mort, c'est sûr que Moridine. La Marloquette, elle est seulement quand on n'a pas entendu qu'il est mort, est-ce qu'on est Moride ou pas? Quand c'est des biens qui ont été abandonnés de manière voulue, tout le monde est d'accord qu'on ne laisse personne s'installer dans ces biens. Mais d'affect là-bas au prochain, et demain, mes attachés.